Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous commençons notre programme avec le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'économie indonésienne va croître en ligne avec l'augmentation de la population. L'Indonésie a le potentiel de diriger dans le domaine de l'économie numérique. Le président a dit « continue et renforce les programmes prioritaires en 2017 ». L'Indonésie et le Sri Lanka ont discuté de la coopération antiterroriste. L'Indonésie et l'Algérie signent la coopération dans le secteur de l'industrie. Et enfin, Yogyakarta va étudier la technologie du traitement de déchets de la Suède. Voici le journal complet. La plupart des pays dans le monde ont connu un ralentissement économique. Le ralentissement peut réellement influencer le développement économique de chaque pays. Répondant à la question, un consultant de l'alimentation de la Malaisie, Mashat Pino, à la Voix d'Indonésie de RRI, en marge des échanges d'affaires dans le 12e Forum économique islamique mondial, WIOF, a dit à Jakarta mercredi que l'Indonésie se sentait l'impact du ralentissement économique causé par le ralentissement du développement économique mondial. Cependant, l'économie d'Indonésie va continuer à croître en ligne avec le montant de la population de l'Indonésie.
I know, it's almost a similar situation in a lot of other countries, but we're not talking about today, right? We have to look forward.
Je sais que l'Indonésie a connu la situation presque similaire que d'autres pays, mais nous ne la parlons pas aujourd'hui. Nous devons la regarder dans l'avenir et je suis très sûr, un jour, l'Indonésie connaîtra des changements économiques. L'économie de l'Indonésie va se développer parce que vous obtenez beaucoup de la population et Inch'Allah, dans un proche avenir, ce développement se produira. En outre, Mashat Pino a dit que sa société qui produit activement l'alimentation veut coopérer avec la société alimentaire indonésienne. Il optimise que le produit alimentaire de sauce à la tomate de la Malaisie peut être accepté par le peuple indonésien. Une femme d'affaires indonésienne, Sinta Danuardoyo, estime que dans l'avenir, l'Indonésie sera un pays leader dans le domaine de l'économie numérique. Sinta Danuardoyo, en marge du Forum économique islamique mondial, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie avait un grand potentiel pour le développement de l'économie numérique. Plus de 90 millions de gens indonésiens utilisent l'Internet et les utilisateurs de la téléphone portable de 125%, ou plus de 300 millions de personnes. La moitié de la population indonésienne est la jeune génération qui est également le consommateur de e-commerce et les entreprises en ligne. Selon Sinta, ce potentiel peut encourager l'économie numérique en Indonésie. À l'heure actuelle, l'Indonésie améliore également plus son infrastructure numérique. Je pense que nous devrions être un acteur qui est assez considéré dans le monde, non seulement en Asie. Nous devons être le joueur mondial dans le domaine numérique. Je vois que le gouvernement commence à réfléchir sur les meilleurs pour les entrepreneurs numériques en Indonésie. J'espère qu'il encouragera l'économie numérique pour l'avenir. Shinta Danuwardoyo a expliqué que le président Joko Widodo a ciblé pour atteindre 1000 entrepreneurs numériques en 2020. Donc, le gouvernement donne beaucoup d'attention et d'aide pour les entrepreneurs. Avec le potentiel existant, Shinta croit que la cible de 1000 entrepreneurs numériques en 2020 peut être atteinte. Le président Joko Widodo a demandé les ministères et les institutions de continuer et renforcer la réalisation des programmes prioritaires en 2017. Entre autres, le développement de l'infrastructure, comme affirmé Joko Widodo dans la séance plénière du cabinet, discutant le brouillon de la note financière et le posture du projet de budget d'État 2017 le mercredi au bureau présidentiel Jakarta. Outre le développement de l'infrastructure, les autres priorités sont l'amélioration de la qualité des services dans le secteur de la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté en améliorant l'efficacité des programmes de protection sociale qui ont été fixés. Le chef d'État a aussi demandé de maintenir la condition économique récente et de s'efforcer d'augmenter la croissance économique au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2016. En outre, le président a appelé toutes les parties à contrôler l'inflation, si bien que cela a également l'impact dans un effort pour réduire la pauvreté. Le Bureau central des statistiques a annoncé l'inflation du juillet 2016 d'un montant de 0,69%. Il était le plus bas au cours des cinq dernières années depuis 2012. On doit le maintenir, en particulier en ce qui concerne les produits d'épicerie qui doivent être surveillés continuellement, de sorte qu'ils peuvent être contrôlés. Le président a demandé que la formulation des hypothèses macro et le montant du capital initial du projet de budget d'État 2017 doivent être assurés en conformité avec les conditions de l'économie indonésienne et prêter attention à la situation de l'économie mondiale. Le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre Ranil Wickremasinghe ont discuté de la coopération contre le terrorisme lors d'une rencontre bilatérale au Palais d'État Jakarta le mercredi. C'est ce qu'a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors des réunions bilatérales. Le Sri Lanka estime que l'Indonésie, le plus grand pays musulman, a réussi à diffuser le message de tolérance et de la promotion de l'islam modéré parmi ses populations. Le premier ministre du Sri Lanka espère que le Sri Lanka et l'Indonésie peuvent renforcer la coopération pour lutter contre le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme. Avant la réunion bilatérale, le président Joko Widodo avait rencontré en privé avec Ranil Wickremasinghe au Palais Merdeka. Le président Joko Widodo, dans cette réunion, est accompagné, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, du secrétaire du cabinet, Pramono Anung, du ministre des Transports, Budi Karya Sumardi, et du ministre du Secrétariat d'État, Pratikno. Les gouvernements d'Indonésie et d'Algérie ont signé l'accord de compréhension sur la coopération bilatérale pour développer le secteur industriel. L'accord de compréhension était signé par le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, et le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Abdesalam Bouchouareb. Airlangga Hartarto, comme cité de l'agence de presse Antara le mercredi à Jakarta, a dit: cet accord de compréhension couvre la coopération dans l'industrie de textile, l'industrie du matériau de construction, l'industrie du meuble, l'industrie de pièces et composants, l'industrie pétrochimique et l'engrais et les industries à base de métaux. De plus, l'industrie à la base de matériaux non métalliques, les industries à la base agricole, les machines agricoles, des équipements d'énergie ainsi que d'autres industries stratégiques définies ont été convenues par les deux côtés. De divers programmes et activités qui sont réalisés ensemble sont entre autres la formation des partenariats entre le gouvernement et le secteur privé, le renforcement et le développement de l'infrastructure industrielle et la mise en œuvre de la formation et de l'éducation pour améliorer la compétence dans les domaines de la technologie et dans le vêtement industriel. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de ce mémorandum de compréhension, le ministre Abdesalem souhaite que les deux parties puissent plus augmenter l'économie, l'investissement et la coopération technique dans le secteur industriel choisi, qui est mutuellement bénéfique et soutient les relations amicales entre les deux pays. Le gouvernement provincial de Yogyakarta va étudier l'application technologique du traitement de déchets de la Suède pour le dépôt final d'ordures de Piungan, afin de ne pas être les obstacles des villes de Yogyakarta, Bantul et Sleman d'obtenir le prix Adipura. Comme affirmé le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mardi à Yogyakarta. Selon lui, le gouvernement provincial de Yogyakarta va étudier la possibilité de coopération technologique avec la Suède, car on estime que c'est moins cher par rapport à l'application technologique du traitement de déchets de l'Allemagne, de la France ou du Japon. Le sultan souhaite qu'avec l'application technologique du traitement, les déchets ne sont pas seulement traités d'être le compost, mais ils peuvent être utilisés pour produire l'électricité qui peut être utilisée par les résidents. Le traitement des déchets au dépôt final d'ordures TPA de Piungan n'est plus fait en méthode sanitary landfill ou site d'enfouissement sanitaire, mais c'est seulement fait au système open dumping, soit éliminer les déchets sans enfouissement avec la terre. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanteur, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix d'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voequiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sergeant Blanten, après le journal, maintenant vous pouvez écouter le commentaire ayant pour le titre « Les PME comme moteur de la croissance économique ». L'Indonésie accueille à nouveau la conférence internationale, à savoir le 12e Forum économique islamique mondial, WIEF, à Jakarta, du 2 au 4 août. C'est une réunion des gouvernements, des hommes d'affaires, des universitaires et des artistes. Le nombre de participants atteint 2500 personnes de 60 pays. Ce forum se concentre sur les questions liées aux activités économiques dans le monde islamique. Il est une réunion très importante. Le thème de cette année est l'école des micro, petites et moyennes entreprises ou PME qui devrait devenir le moteur de la croissance économique, en particulier au milieu du ralentissement économique mondial. Le président du Forum économique islamique mondial, Tun Musa Hitam, a estimé que le potentiel commercial des micro, petites et moyennes entreprises en Indonésie est très important pour être développé aux affaires futures. En Indonésie, il y a 60 millions de PME qui constituent l'épine dorsale économique de l'Indonésie et ils contribuent de manière significative au produit intérieur brut PIB. En ce qui concerne cela, il est nécessaire de réfléchir à la façon dont l'entreprise et la technologie se concentrent sur les micro, petites et moyennes entreprises. Les PME peuvent aider à encourager la décentralisation de la croissance de sorte qu'il y aura plus de parties impliquées dans le développement économique à l'avenir et ils doivent être habilités. Pendant ce temps, le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani, considère que la coopération entre le gouvernement et les entreprises pour encourager le développement des micro, petites et moyennes entreprises est très important dans le but de contribuer de plus en plus à l'économie nationale. Elle a déclaré que la décentralisation doit prendre parti pour le développement des micro, petites et moyennes entreprises parce que ces secteurs résistent fortement de la crise économique. Aujourd'hui, les PME sont l'épine dorsale de l'économie indonésienne. Environ 99% des entreprises en Indonésie sont des PME, avec plus de 98% dominés par les micro-entreprises. Les PME emploient plus de 107,6 millions de personnes en Indonésie et contribuent 60,6% du PIB de l'Indonésie. En développant les micro, petites et moyennes entreprises, ou PME, la croissance économique qui avait été dominée par une grande entreprise multinationale peut conduire à l'autonomisation des petites entreprises. Ainsi, cela assure que plus de gens vont participer à la croissance économique et apporter des effets positifs sur le renforcement de l'économie nationale. PME peut être forte et la rétention si l'économie est lente. Le gouvernement a émis des politiques visant à stimuler la croissance économique. L'un d'elles est de faciliter le permis d'enregistrement des PME. Une autre politique est la révision de la liste négative de l'investissement qui a ouvert 19 sous-secteurs alloués pour les PME et les coopératives. Cependant, il y a des facteurs importants dans les progrès des PME qui ne sont pas directement liés à la politique. L'esprit d'entrepreneuriat et la détermination pour être succès doivent être présents aux hommes d'affaires des PME. Il est prévu que la mise en œuvre du 12e WIEF cette fois peut être une solution pour encourager le développement des PME en Indonésie. Chers auditeurs, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire aujourd'hui avec l'événement le 4 août 1949, lorsque le premier cabinet de Hatta, créé à Yogyakarta, était terminé et remplacé par le deuxième cabinet de Hatta. Le second cabinet Hatta était le 9e cabinet de l'Indonésie. Il était formé après que les dirigeants indonésiens avaient été emprisonnés par les forces néerlandaises en revenant à la capitale Yogyakarta. Ce cabinet a servi du 4 août à 14 décembre 1949. Le cabinet Hatta était le fourth cabinet. Le second cabinet Hatta a contribué à la résolution des conflits avec les Hollandais en résultant la conférence de table ronde. Lors de la conférence, le Néerlandais était prêt à céder la souveraineté à la République d'Indonésie État inconditionnellement. Le second du cabinet Hatta a été remplacé par la République de l'Indonésie État. Le prochain événement était en 1992 quand le contingent indonésien a remporté la première médaille d'or aux Jeux olympiques. L'Indonésie a participé aux Jeux olympiques d'été de 1992 à Barcelone, en Espagne. Ils ont gagné le simple dames et le simple hommes de leur première médaille d'or de badminton qui est apparue pour la première fois aux Jeux olympiques d'été. Ils ont fait l'Indonésie pour la première médaille d'or de gagner du temps aux Jeux olympiques et ont également fait l'Indonésie le premier pays d'Asie du Sud-Est de remporter l'or. Alan Budi Kusuma et Susi Susanti, qui épousent plus tard, avaient l'hymne olympique à jouer le jour de leur mariage. Nous finissons l'histoire aujourd'hui avec la sonde Phoenix a été lancée vers le Mars. Phoenix a été lancée le 4 août 2007 en utilisant la fusée Delta II du Golfe Canaveral, Floride. La mission principale de l'engin spatial était d'explorer pôle nord de Mars pour trouver des preuves de vie de l'espace extra-atmosphérique. Phoenix utilisait le matériel qui était similaire avec Mars Surveyor Lander en 2001. Le faisceau spatial a été complété par un bras robotisé pour creuser la glace qui a été présumée enterrée sous la surface de Mars. Le 25 mai 2008, il s'est posé à proximité de la calotte polaire de l'hémisphère nord dans une région appelée Vestitas Borealis où il a continué de fonctionner avec succès pendant plus de 5 mois. Le faisceau spatial a immédiatement pris une photo qui est ensuite envoyée sur Terre pour analyse. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis, nous continuons notre émission ce soir avec la mise au point et un petit titre. Faisant face à la communauté économique d'ASEAN, les coopératives sont encouragées de se mettre en ordre. Les coopératives devraient être en mesure de développer des opportunités d'investissement pour les micro, petites et moyennes entreprises, soit PME, afin qu'ils puissent répondre aux défis de l'ère de la communauté économique d'ASEAN. Comme affirmé le maire adjoint de la ville Magelang, Windarti Agustina, à l'ouverture de l'atelier sur le mouvement de coopératives de la ville Magelang, le 2 août à Magelang. Windarti Agustina encourage les coopératives de continuer à améliorer la mise en œuvre de l'ère de la communauté économique de l'ASEAN. Les administrateurs, les superviseurs et les membres de coopératives devraient toujours faire des innovations et des créations afin de n'être pas arriérés. Il a dit que dans une ère de concurrence mondiale, la coopérative est demandée d'utiliser la technologie à la fois dans la production et la commercialisation des produits des PME. La qualité des ressources humaines à l'institution doit également être augmentée. Ces efforts ne doivent pas oublier les principes des coopératives, à savoir la parenté et de l'assistance mutuelle et détient également sur une base opérationnelle. Cependant, à la même occasion, le directeur du bureau des coopératives Tlanuski et du commerce de la ville Magelang, Issa Asari, a dit qu'elle va encourager les coopératives à se plonger dans le secteur réel et se déplacer en tant que producteur, consommateur ou service. Cela relie avec le défi énorme de la communauté économique d'ASEAN. Ne laissez pas la coopérative d'être spectateur seulement. L'un des défis de coopérative est faible taux d'intérêt. Issa Asari espère que la coopérative ne joue pas seulement dans les économies et les prêts. Les coopératives devraient être fortes dans le secteur réel, car l'impact peut encourager le développement des secteurs industriels nationaux, tels que les PME. On a également attendu des coopératives pour accroître la prospérité de la société. À présent, à Magelang, il y a actuellement 217 coopératives. La plupart de ces coopératives engagées dans le secteur de l'épargne et des prêts. Il est devenu une faiblesse. Quand l'épargne et des prêts ne s'opèrent pas bien, le dépôt sera épuisé et la qualité des coopératives diminue. Un autre résultat, les membres ne sont pas confiants et la coopérative pourrait fermer. Par conséquent, le bureau des coopératives de l'industrie et du commerce de Magelang s'intensifie de soutenir et d'aider les coopératives, en particulier les nouvelles. Chers amis, c'était la mise au point d'aujourd'hui.
La plupart des pays dans le monde ont connu un ralentissement économique. Le ralentissement peut réellement influencer le développement économique de chaque pays. Répondant à la question, un consultant de l'alimentation de la Malaisie, Mashat Pino, à la Voix de Nizi de RRI en mars des enjeux d'affaires dans le 12e Forum économique islamique mondial, WIOF, a dit à Jakarta mercredi que l'Indonésie se sentait l'impact du ralentissement économique causé par le ralentissement du développement économique mondial. Cependant, l'économie d'Indonésie va continuer à croître en ligne avec le montant de la population de l'Indonésie.
I know, it's almost a similar situation in a lot of other countries, but we're not talking about today, right? We have to look forward.
Je sais que l'Indonésie a connu la situation presque similaire que d'autres pays, mais nous ne la parlons pas aujourd'hui. Nous devons la regarder dans l'avenir et je suis très sûr, un jour, l'Indonésie connaîtra des changements économiques. L'économie de l'Indonésie va se développer parce que vous obtenez beaucoup de la population et Inch'Allah, dans un proche avenir, ce développement se produira. En outre, Mashat Pino a dit que sa société qui produit activement l'alimentation veut coopérer avec la société alimentaire indonésienne. Il optimise que le produit alimentaire de sauce à la tomate de la Malaisie peut être accepté par le peuple indonésien. Une femme d'affaires indonésienne, Sinta Danuardoyo, estime que dans l'avenir, l'Indonésie sera un pays leader dans le domaine de l'économie numérique. Sinta Danuardoyo, en marge du Forum économique islamique mondial, a déclaré mercredi à Jakarta que l'Indonésie avait un grand potentiel pour le développement de l'économie numérique. Plus de 90 millions de gens indonésiens utilisent l'Internet et les utilisateurs de la téléphone portable de 125% ou plus de 300 millions de personnes. La moitié de la population indonésienne est la jeune génération qui est également le consommateur de e-commerce et les entreprises en ligne. Selon Sinta, ce potentiel peut encourager l'économie numérique en Indonésie. À l'heure actuelle, l'Indonésie améliore également plus son infrastructure numérique. Je pense que nous devrions être un acteur qui est assez considéré dans le monde, non seulement en Asie. Nous devons être le joueur mondial dans le domaine numérique. Je vois que le gouvernement commence à réfléchir sur les meilleurs pour les entrepreneurs numériques en Indonésie. J'espère qu'il encouragera l'économie numérique pour l'avenir. Sinta Danuardoyo a expliqué que le président Joko Widodo a ciblé pour atteindre 1000 entrepreneurs numériques en 2020. Donc, le gouvernement donne beaucoup d'attention et d'aide pour les entrepreneurs. Avec le potentiel existant, Shinta croit que la cible de 1000 entrepreneurs numériques en 2020 peut être atteinte. Le président Joko Widodo a demandé les ministères et les institutions de continuer et renforcer la réalisation des programmes prioritaires en 2017, entre autres le développement de l'infrastructure, comme affirmé Joko Widodo dans la séance plénière du cabinet discutant le brouillon de la note financière et le posture du projet de budget d'État 2017 le mercredi au bureau présidentiel Jakarta. Outre le développement de l'infrastructure, les autres priorités sont l'amélioration de la qualité des services dans le secteur de la santé, l'éducation et la réduction de la pauvreté en améliorant l'efficacité des programmes de protection sociale qui ont été fixés. Le chef d'État a aussi demandé de maintenir la condition économique récente et de s'efforcer d'augmenter la croissance économique au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2016. En outre, le président a appelé toutes les parties à contrôler l'inflation, si bien que cela a également l'impact dans un effort pour réduire la pauvreté. Le Bureau central des statistiques a annoncé l'inflation du juillet 2016 d'un montant de 0,69%. Il était le plus bas au cours des 5 dernières années depuis 2012. On doit le maintenir, en particulier en ce qui concerne les produits d'épicerie qui doivent être surveillés continuellement de sorte qu'il peut être contrôlé. Le président a demandé que la formulation des hypothèses macro et le montant du capital initial du projet de budget d'État 2017 doivent être assurés en conformité avec les conditions de l'économie indonésienne et prêter attention à la situation de l'économie mondiale. Le président indonésien Joko Widodo et le premier ministre Ranil Wickremasinghe ont discuté de la coopération contre le terrorisme lors d'une rencontre bilatérale au Palais d'État Jakarta le mercredi. C'est ce qu'a affirmé la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, après avoir accompagné le président Joko Widodo lors des réunions bilatérales. Le Sri Lanka estime que l'Indonésie, le plus grand pays musulman, a réussi à diffuser le message de tolérance et de la promotion de l'islam modéré parmi ses populations. Le premier ministre du Sri Lanka espère que le Sri Lanka et l'Indonésie peuvent renforcer la coopération pour lutter contre le radicalisme, l'extrémisme et le terrorisme. Avant la réunion bilatérale, le président Joko Widodo avait rencontré en privé avec Ranil Wickremasinghe au Palais Merdeka. Le président Joko Widodo, dans cette réunion, est accompagné, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, du secrétaire du cabinet, Pramono Anung, du ministre des Transports, Budi Karya Sumardi, et du ministre du Secrétariat d'État, Pratikno. Les gouvernements d'Indonésie et d'Algérie ont signé l'accord de compréhension sur la coopération bilatérale pour développer le secteur industriel. L'accord de compréhension était signé par le ministre indonésien de l'Industrie, Airlangga Hartarto, et le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Abdissalam Bouchouareb. Airlangga Hartarto, comme cité de l'agence de presse Antara le mercredi à Jakarta, a dit « Cet accord de compréhension couvre la coopération dans l'industrie de textile, l'industrie du matériau de construction, l'industrie du meuble, l'industrie de pièces et composants, l'industrie pétrochimique et l'engrais et les industries à base de métaux. De plus, l'industrie à la base de matériaux non métalliques, les industries à la base agricole, les machines agricoles, des équipements d'énergie ainsi que d'autres industries stratégiques définies ont été convenues par les deux côtés. De divers programmes et activités qui sont réalisés ensemble sont entre autres la formation des partenariats entre le gouvernement et le secteur privé, le renforcement et le développement de l'infrastructure industrielle et la mise en œuvre de la formation et de l'éducation pour améliorer la compétence dans les domaines de la technologie et dans le vêtement industriel. Pendant ce temps, Par l'intermédiaire de ce mémorandum de compréhension, le ministre Abdeslam souhaite que les deux parties puissent plus augmenter l'économie, l'investissement et la coopération technique dans le secteur industriel choisi, qui est mutuellement bénéfique et soutient les relations amicales entre les deux pays. Le gouvernement provincial de Yogyakarta va étudier l'application technologique du traitement des déchets de la Suède pour le dépôt final d'ordures de Pyongan, afin de ne pas être les obstacles des villes de Yogyakarta, Bantul et Sleman d'obtenir le prix Adipura. Comme affirmé le gouverneur de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mardi à Yogyakarta. Selon lui, le gouvernement provincial de Yogyakarta va étudier la possibilité de coopération technologique avec la Suède, car on estime que c'est moins cher par rapport de l'application technologique du traitement de déchets de l'Allemagne, de la France ou du Japon. Le sultan souhaite qu'avec l'application technologique du traitement, les déchets ne sont pas seulement traités d'être le compost, mais ils peuvent être utilisés pour produire l'électricité qui peut être utilisée par les résidents. Le traitement des déchets au dépôt final d'ordures TPA de Pyongan n'est plus fait en méthode sanitary landfill ou site d'enfouissement sanitaire, mais c'est seulement fait au système open dumping, soit éliminer les déchets sans enfouissement avec la terre. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Le Service mondial de la Radio République d'Indonésie organise le quiz international 2016 avec le prix principal passer des vacances en Indonésie. L'Indonésie, un pays enchanté, le plus grand pays archipelagique dans le monde où vous pouvez trouver beaucoup de choses merveilleuses. Un beau pays avec la diversité naturelle et culturelle qui vit en harmonie avec les gens sympathiques et peut donner une impression inoubliable. Vous rêvez de visiter l'Indonésie? Réalisez vos rêves en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie 2016. Peut-être vous êtes chanceux pour passer des vacances et profiter des charmes de l'Indonésie gratuitement. Répondre aux questions suivantes. 1. Quelle est la capitale de l'Indonésie? 2. Quel est votre programme préféré? 3. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de la Voix de l'Indonésie. Envoyez s'il vous plaît vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiquiz2016@gmail.com avant le 1er août 2016. Bienvenue à l'Indonésie. Chères auditrices et chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Pour la suivante, voici le magazine culturel. Nous poursuivons avec l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Bengkulu. Donc, restez toujours avec nous, le Service mondial de Radio République Indonésie, La Voix d'Indonésie. Bengkulu, une des provinces à Sumatra, est directement adjacente à l'océan d'Indonésie et possède un long et beau littoral. L'une des belles plages de Bengkulu que vous devez visiter est la plage Tapak Padri. Contrairement aux autres plages en Indonésie, en visitant cette plage, vous pouvez non seulement profiter de sa beauté naturelle, mais pourrez aussi bien le voyage d'histoire parce que, non loin de la plage, se dresse le château de Marlborough et le monument Thomas Paine. Parce qu'il présente le caractère historique dans le même temps, la plage est l'un des piliers de l'attraction touristique de Bengkulu et visitée par de nombreux touristes étrangers et locaux. La plage Tapak Padri est située à environ 15 km de l'aéroport. Pour y arriver, vous pouvez louer une voiture ou prendre un taxi pendant environ 40 minutes. Tapak Padri peut être pris environ 10 minutes du centre-ville Bengkulu et accessible en voiture, minibus, taxi ou moto. Pour entrer dans le site touristique de la plage, vous devez payer 1000 rupiah pour les enfants et 2000 rupiah pour les adultes. En ce qui concerne les véhicules à deux roues, sont facturés 1000 rupiah, 2000 rupiah pour ceux à quatre roues et 4000 rupiah pour la voiture à six roues. En arrivant à la plage Tapak Padri, vous pouvez tout simplement profiter de la beauté de Bengkulu. Pour être en mesure de profiter de la beauté de cette plage, vous pouvez marcher sur la plage Tapak Padri ou tout simplement se prélasser autour de la plage tout en profitant du maïs grillé. Mais très différent de la côte en général, vous pouvez nager et faire de la plongée sur cette plage. Lorsque le crépuscule approchait, regardez le coucher du soleil et l'un des charmes de la plage Tapak Padri. La plage Tapak Padri est une fois centre du premier port à Bengkulu. Ce port se connecte également le transport maritime au cours de la domination britannique. Ce port est situé à seulement 100 mètres de Fort Marlborough, forteresse construite par les Britanniques au début du 18e siècle et aussi un bastion de la Grande-Bretagne sur la côte ouest de Sumatra. À l'intérieur du fort, il y a une salle de détention, armurerie, bureau, quelques canons, bunkers, le tunnel au long de 6 mètres et de soldats britanniques. Le long de cette côte, vous pouvez aussi voir le quartier chinois qui était autrefois centre d'activité quotidienne de la communauté. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci de votre fidèle attention. À demain. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles. Bonsoir à tous. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique de l'Indonésie en couleur, discutant exposition des collections de beaux-arts des palais présidentiels de la République d'Indonésie. Le lundi 1er août, le président Joko Widodo a ouvert une exposition de peinture ayant pour thème 1771 rayures de la lutte pour l'indépendance qui affiche une collection de peintures qui avait été dans un certain nombre de palais présidentiels. L'exposition se tient outre pour célébrer le 71e anniversaire de l'indépendance, aussi pour que la communauté en particulier la jeune génération, peut profiter et apprendre beaucoup et peut récolter les valeurs de vertu, les valeurs de la lutte et les valeurs de l'unité des peintures exposées. Dans l'exposition affichée 28 peintures de la collection de Beaux-Arts qui ont été affichées dans un certain nombre de palais d'État avec de divers temps de production, des années 1930 aux années 1970. À l'exposition de peinture 1771, Rayures de la lutte pour l'indépendance, il y a trois séries de 28 tableaux qui seront affichés. La première série, il y a des peintures des pionniers de l'indépendance, à savoir R.A. Kartini, Hoschokro Aminoto, Général Sudirman, Prince Diponegoro et d'autres. La seconde série, la condition socio-culturelle de la communauté d'archipel après l'indépendance, la période de 1940 à 1950. Par exemple, la peinture de la guerre de guérilla à la peinture sur les réfugiés déplacés par la guerre à cette époque. Le dernier, une série de tableaux sur la beauté d'archipel à la période de 1930 à 1970. La peinture de cette période illustre comment l'archipel dans les jeux des peintres. Il y a une belle vue, la coutume traditionnelle et les performances de la population de l'archipel à l'époque. L'un est un tableau de peintre mexicain Diego Rivera intitulé « Une fille malaise avec des fleurs » produit en 1955. L'exposition des collections des peintures des palais présidentiels qui a eu lieu en collaboration avec le ministère du Secrétariat d'État, ministère de l'Éducation et de la Culture, par la Galerie nationale d'Indonésie, Agence de l'économie créative et Mandiri Art, est la première fois détenue depuis l'indépendance de l'Indonésie. L'exposition d'œuvres art qui avait été entreposé au palais aura lieu à la Galerie nationale rue Medan Merdeka Timur Jakarta Central du 1er au 30 août 2016. En plus de 28 tableaux sélectionnés, le palais présente également 100 photographies de la présidence et 9 livres qui racontent sur les peintures au palais. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs artistes dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voice.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter une chanteuse indonésienne dans les années 80. Bien que beaucoup de chanteuses indonésiennes apparaissent, mais un nom qui a toujours son propre charismatique grâce à des chansons qui ont circulé aux amateurs de chansons pop indonésiennes. Vous rappelez la chanson intitulée « Bukit Berbunga » C'est certainement Uci Bin Slamet qui l'a chanté. Un adolescent à ce moment-là est une fille d'un célèbre comédien Bin Slamet. Cette chanson est très populaire auprès des amateurs de chansons pop indonésiennes à ce moment, surtout les adolescents, parce que la plupart des chansons chantées par Uchi dans ses albums racontent la vie des adolescents et de l'amour. La chanson « Bukit Berbunga » raconte une colline recouverte de fleurs colorées. Bon, chers auditeurs, voici la chanson « Bukit Berbunga » ou « Colline florale » chantée par Uchi Bin Slamet. Bonne écoute. Chers auditeurs, c'était la chanson Ochi Bin Slamet, intitulé Colline Florale. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. La beauté naturelle décorée avec des belles fleurs est très impressionnante quand vous la voyez. Avec la puissance des mots et des mélodies chantées par un chanteur, fait cette chanson a explosé sur le marché. Bon, Serge Tard, écoutons maintenant la chanson d'Uchi intitulée « Pang sur la colline pacifique ». Bonne écoute. Chers auditeurs et chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.